Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 16h à Paris, 15h en temps universel.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Des habitants évacués dans le nord de l'Éthiopie après des tremblements de terre et après qu'un volcan s'est réveillé. Intense activité sismique dans la région. Double manifestation aujourd'hui à Séoul, celle des partisans du président destitué et celle de ses opposants qui réclament son arrestation après sa destitution par le Parlement. Plus de 130 morts en 48 heures dans la bande de Gaza. Dans ce journal, on évoquera le soutien international en faveur du directeur de l'hôpital Kamal Adwan, arrêté il y a une semaine par l'armée israélienne. On évoquera aussi la découverte de traces de dinosaures en Angleterre. Et puis, dans 10 minutes, après ce journal, vous retrouverez tous les cinémas du monde consacrés au film de Mati Diop, Dahomey. Un volcan est donc entré en activité en Éthiopie, dans le nord du pays, et des évacuations d'habitants sont en cours. 60 000 personnes pourraient être concernées. Tout a commencé hier avec un tremblement de terre d'une intensité mesurée à 5,5. Il y a eu depuis d'autres secousses, alors qu'une activité sismique accrue a été relevée dans la région depuis le mois de septembre. Lisa Fabian.
Pas moins de 67 tremblements de terre et secousses ont été enregistrés ces derniers mois, particulièrement dans la région de Fantale, qui fait partie de la vallée principale du Rift éthiopien. Une vaste zone de fracture de la croûte terrestre où les phénomènes géologiques sont particulièrement intenses. Et l'inquiétude est montée d'un cran ce vendredi soir avec l'entrée en éruption du mont Dauphan. Sur les images tournées à proximité de ce volcan, on peut voir une colonne de gaz et des débris sous pression qui s'élèvent au-dessus des arbres. De profondes fractures ont également été observées sur le sol. Autant d'éléments qui laissent craindre une éruption volcanique plus importante. Depuis plusieurs semaines déjà, les autorités éthiopiennes travaillent à un plan d'évacuation de la population. Un responsable de la commission de gestion des risques et des catastrophes dans la région de l'Afar explique que 5 refuges ont été ouverts pour accueillir les déplacés. Plus de 60 000 personnes pourraient être forcées de fuir la zone si l'activité volcanique s'intensifie encore.
Lisa Fabian du service Afrique de RFI. Après le passage du cyclone Chido à Mayotte, tout le monde n'a pas encore accès à l'électricité. Un tiers de la population du département français dans l'océan Indien est encore privée de courant, selon les derniers chiffres communiqués. Des coupures d'électricité aussi, aujourd'hui, en Transnistrie, cette république pro-russe autoproclamée en territoire moldave. 3 heures de coupure aujourd'hui en raison de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe, puisque depuis le 1er janvier, le gaz russe ne transite plus par l'Ukraine. L'Ukraine accusée par la Russie d'avoir lancé aujourd'hui 8 missiles longue portée attaque MS. Moscou promet des représailles après cette offensive ukrainienne en territoire russe, dans la région de Belgorod. 8 missiles lancés ainsi que 72 drones. Alors ces missiles américains attaque MS, les États-Unis ont donné à l'Ukraine l'autorisation de les utiliser après des informations sur la présence de soldats nord-coréens aux côtés de l'armée russe. La Corée du Sud, divisée autour du sort du président destitué au lendemain de la tentative avortée d'arrêter Yoon Suk-yeol. 2 manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Séoul. L'une des partisans du président déchu qui s'oppose à son arrestation et puis ceux qui, au contraire, veulent qu'il soit arrêté alors qu'il est poursuivi pour trahison, pour avoir voulu instaurer l'état d'urgence. La police a empêché ce deuxième cortège de se rendre devant la résidence de Yoon Suk-yeol. À cette crise politique s'ajoute une crise économique et puis les dirigeants sud-coréens sont aussi inquiets de l'image que renvoie aujourd'hui le pays. Reportage à Séoul de Camille Ruiz.
C'est un sujet que l'on entend souvent dans les discussions des militants ces dernières semaines, l'image de la Corée du Sud. Les manifestants pro-démocratie disent s'inquiéter pour la situation politique intérieure, mais certains pensent aussi à ce que renvoie leur pays à l'étranger. C'est le cas de Choi Ji-hun, 23 ans, qui se veut rassurante.
On peut avoir l'impression qu'en Corée, c'est compliqué en ce moment. Et ça l'est. Mais il faut avoir confiance en notre pays parce que les citoyens se mobilisent et essayent de toutes leurs forces de normaliser les choses.
Eum Gil-young a 58 ans, il est syndicaliste.
La Corée s'inquiète de sa crédibilité à l'étranger qui diminue à cause de la situation politique. Mais je pense que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir parce que nous, travailleurs coréens, protégeons la démocratie. Ces événements peuvent même représenter une occasion de la renforcer.
Le gouvernement, lui, ne se montre pas si optimiste. Les ministres tentent de rassurer investisseurs étrangers et potentiels voyageurs. Début 2025, des mesures seront prises dans le secteur du tourisme, comme par exemple des exemptions de visas renouvelées ou l'organisation d'une série de festivals et d'expositions internationales. Objectif, promouvoir une image positive de la Corée du Sud. Des aides seront aussi proposées au secteur. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Le bilan des frappes israéliennes s'est alourdi depuis ce matin dans la bande de Gaza. 26 personnes ont été tuées selon la défense civile palestinienne, qui évoque aussi des tirs de drones israéliens sur des ambulanciers venus secourir les victimes après les premières frappes. En 48 heures, 138 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. Dans le nord de la bande de Gaza, il y a une semaine, l'armée israélienne avait aussi arrêté le docteur Hossam Abu Safia, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan. On est sans nouvelles de lui depuis une semaine et depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. De nombreux médecins et infirmiers s'indignent de son sort et plus largement du sort de tous les soignants palestiniens dans la bande de Gaza. Marie Cazadebé.
I'm a cardiologist from Barcelona, Spain.
Alina, surgeon, London, UK.
Atanasia Karantia, psychotherapist from Greece.
Ben doktor Hüseyin Durmaz, Türkiye'den bir doktorum.
Ils sont espagnols, grecs, turcs, sud-africains ou encore américains, médecins de famille, chirurgiens, infirmiers. Face caméra, ils dénoncent tous l'arrestation du docteur Abu Safia.
He demands his immediate release.
Nous demandons sa libération immédiate ainsi que celle de tous nos collègues détenus illégalement.
D'autres soignants posent avec un panneau à la main et pour seule requête, la liberté pour le médecin palestinien. Christian Lehmann a fait ce choix, il est médecin généraliste en France.
Je ressens une terreur indicible quand je vois une population civile se faire massacrer et particulièrement quand je vois des confrères être agressés, voire être assassinés et des hôpitaux être détruits avec une population qui se retrouve dans une situation dramatique, entre autres à cause de ça.
Le docteur Abu Safia incarne désormais l'anéantissement du système de santé de la bande de Gaza. Il dirigeait le dernier hôpital opérationnel du nord du territoire. Selon les données du gouvernement du Hamas, plus d'un millier de soignants palestiniens ont été tués depuis octobre 2023.
Marie Cazadebé, RFI, il est 16h08 à Paris. On va maintenant faire un grand bond en arrière. Il y a 166 millions d'années, c'était l'époque des dinosaures. Et des empreintes de pas de dinosaures, plus de 200, viennent d'être découvertes dans le sud-est de l'Angleterre. Suzanne Marion.
C'est tout simplement le plus grand site d'empreintes connu du Royaume-Uni. La découverte d'une vie, résume Christy Edgar, professeur de micropaléontologie à l'université de Birmingham.
Nous avons mis au jour plus de 200 traces de dinosaures. C'est vraiment passionnant et significatif en raison de la zone qu'elles couvrent, de leur nombre et de leur étendue. Certaines pistes peuvent atteindre jusqu'à 150 mètres de long et sont constituées d'un très grand nombre d'empreintes.
Ces empreintes appartiennent à au moins 5 dinosaures du Jurassique. 4 sauropodes, de gigantesques herbivores et un mégalosaure, l'un des plus grands prédateurs. Il pouvait atteindre 3 mètres de haut et 7 de long. Pour pouvoir les étudier, les empreintes ont été modelées. Les scientifiques ont enregistré plus de 20 000 photos. Une base de données pour en apprendre davantage, Christy Edgar.
Les traces de dinosaures nous renseignent sur leur comportement. Elles nous permettent de déterminer leur taille. Nous pouvons savoir comment ils se déplaçaient, à quelle vitesse. Nous pouvons aussi étudier comment ils interagissaient avec leur environnement et les autres espèces et bien d'autres aspects que nous ne pourrions pas obtenir à partir des seuls restes de squelettes.
Dans leurs recherches, les scientifiques ont été suivis par la BBC. Une série documentaire sera diffusée à partir de mercredi prochain.
La doyenne de l'humanité, pas aussi vieille que les dinosaures, vient de mourir. C'était une Japonaise qui avait 116 ans et qui n'a détenu ce titre de femme la plus vieille au monde que pendant 4 mois après la mort, au mois d'août, d'une Espagnole qui avait 117 ans. 16h10 à Paris, fin de ce journal, dans un instant sur RFI, tous les cinémas du monde.